Histoire vivante. Anaïs Kien.
Épisode 5. Nazisme, la guerre et le génocide.
Das, was hier steht, ist keine Redensart. Das ist eine Realität aus Blut und Fleisch.
L'histoire du nazisme s'est longtemps écrite autour de la personnalité d'Adolf Hitler. Aujourd'hui, l'analyse du régime a largement ouvert sa focale pour embrasser des facteurs divers, des effets de groupe et des cultures de la violence qui engendrent les millions de victimes à la date de sa chute. Le nazisme a provoqué une guerre mondiale et a organisé l'extermination des Juifs d'Europe. Mais tout n'était pas planifié au départ par ses dirigeants, ni contenu dans les pages de Mein Kampf, le manifeste d'Hitler, rédigé 10 ans avant son accession au pouvoir en 1933. Christian Ingrao, directeur de recherche au CNRS.
Effectivement, Mein Kampf ne contient pas le programme de gouvernement du national-socialisme. Mein Kampf est un livre extrêmement composite dans lequel on a à la fois ce qu'Hitler appelle une Abrechnung, c'est-à-dire qu'il passe tout un temps à régler des comptes absolument mesquins avec l'ensemble de l'extrême droite munichoise de l'époque. On a d'un autre côté ce qu'on appelle un Bildungsroman, c'est-à-dire une sorte de récit de la pseudo-éducation que le dictateur a pu se mettre en place. Et puis, il y a des chapitres dans lesquels il explique sa conception des femmes, de la syphilis, de la boxe, de la race, etc., etc., etc. Et donc là, il y a quelque chose qui a pu passer un moment pour programmatique, mais ce qui était la croyance de la première génération des historiens qu'on appelle les intentionnalistes et qui pensaient que Mein Kampf était, et Hitler d'ailleurs, était l'alpha et l'oméga du nazisme et que tout y était marqué, pour peu que l'on décidât de lire entre les lignes. Vous avez une deuxième génération d'historiens du nazisme qui s'est beaucoup plus intéressée aux archives, au fonctionnement de l'État, etc., etc., et qui a pointé l'extrême contradiction qu'il pouvait y avoir entre un fonctionnement chaotique, marqué par des pratiques de mise en concurrence des institutions, de surenchère administrative, de darwinisme institutionnel, et qui fait que c'est le désordre partout, et que toutes les politiques sont des politiques qui sont contradictoires, qui marchent par rambardées, où les gens essayent d'obtenir une décision d'Hitler qui, lui, est très peu pressé d'en donner, etc., etc. Et dans cette optique-là, la Shoah change de statut. Là où les intentionnalistes y voyaient l'alpha et l'oméga du projet nazi, c'est-à-dire une intention qui aurait été donnée dans Mein Kampf, ici, ce que cette deuxième et cette troisième génération ont pu montrer, c'est que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, que on dispose de textes qui disent, d'Himmler par exemple, qui dit en 1940, écoutez, pour régler la question des Sorbes, qui sont une population de Slaves installés dans le sud de la en Saxe, en Lusace, il y a plusieurs solutions, mais la solution qu'on a choisi, qui est une solution difficile, dans laquelle on leur prend leurs enfants, etc., etc., est quand même bien plus humaine que cette solution par extermination que nous, comme Allemands, nous trouverons inhumaine et que nous n'adopterons jamais.
La promesse du nazisme à la population allemande, c'est d'abord de sortir de la honte de la défaite de la Première Guerre mondiale et de la crise économique qui frappe l'Europe au début des années 30. Mais au fil des ans, c'est aussi une promesse de guerre. Et, je cite Christian Ingrao, le modelage d'une société en un « être pour la guerre ».
D'un côté, au plan factuel et pratique, effectivement, les nationaux-socialistes sont en train de préparer les conditions matérielles, économiques, et stratégiques et militaires d'entrer en guerre avec des politiques de réarmement qui pèsent d'un poids énorme sur la société. Dès 1934, c'est le cas. Et il y a un premier point de bascule qui a lieu en 1936 avec le plan de 4 ans qui est censé organiser l'allocation des moyens et arbitrer entre les différentes priorités, les différentes injonctions que le gouvernement nazi essaye de mettre en place et donc de préparer la guerre. Et là, vous voyez, le plan de 4 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nazis pensent entrer en guerre en 1940. C'est le plan matériel. De l'autre côté, le discours qui est adressé à la population, il est très ambigu. Le Hitler passe pour le Friedenskanzler, il jure de son intention pacifique partout, et dans le même temps, il est clair que c'est toute une société qui est préparée à la guerre, avec la réintroduction du service militaire, la militarisation de la jeunesse avec les uniformes, les grades, etc., etc., hein, une vraie militarisation de la jeunesse qui se met en place, et qui se met en place de façon très progressive entre 1933 et 1939. On voit donc, si vous voulez, qu'on a un espèce de mélange entre le bellicisme et le désir de guerre, parce que la guerre reste le plan d'épreuve de la race, et que la guerre est le seul vrai moyen de restauration de la place de l'Allemagne, de la nordicité dans le concert diplomatique et politique européen. Donc on a à la fois, si vous voulez, une espèce de désir de guerre, mais ce désir de guerre, il est en même temps toujours teinté de crainte, d'angoisse et de volonté d'apaiser la population.
Marcher vers la guerre, c'est aussi trouver des raisons pour qu'une population consente à y prendre part, à se battre, à faire des sacrifices.
La politique étrangère du national-socialisme est une politique qui est marquée par un très grand opportunisme. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est l'un des signes, en fait, de la pratique à la fois hitlérienne et diplomatique. Ici, c'est le côté coup de poker. Hein. C'est la mise en place de crises dont on escompte qu'elles seront courtes et qu'elles vont permettre l'avancée des stratégies allemandes d'archétype. C'est évidemment la crise de 1938, hein, la crise de Munich, mais il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu l'Anschluss, etc., etc. Et la guerre commence en fait sur une crise de ce type-là, c'est-à-dire que au début de l'année 1939, Hitler, après avoir envahi le reste de la Tchéquie, commence à se faire écho de la situation intenable des communautés germanophones en Pologne et dit qu'il faut régler ce problème, que de même il faut régler le problème du corridor de Danzig, et c'est une fois le refus polonais acté et une fois le fait que Hitler se soit, enfin les nazis se soient assurés de l'attitude des soviétiques, ils lancent un ultimatum et envahissent la Pologne. Et donc la guerre commence, si vous voulez, sur une crise dans laquelle le coup de poker était d'escompter encore une fois que les Anglais et les Français ne rentreraient pas en guerre. L'idée de tout ça, c'est de souligner la prégnance des pratiques de combat de la Grande Guerre dans la pratique hitlérienne qui consiste à mettre en place des pratiques de manœuvre diplomatique fondées comme un assaut, c'est-à-dire un effort brutal, mais censé être extrêmement rapide et qui emporte la décision. De même, les pratiques de guerre sont basées sur l'héritage de cette année 1917-1918 qui avait vu les armées impériales mettre en place une véritable révolution des pratiques militaires en inventant quasiment le commando, si vous voulez. Hein. Et donc, ce que l'on appelle Blitzkrieg et qui est non pas de l'ordre du plan génial préétabli, mais de l'ordre de la sélection de bonnes pratiques de combat au service de guerres, de campagnes extrêmement courtes dans laquelle la mobilisation totale n'est pas nécessaire, va constituer le mode d'entrée en guerre des nationaux-socialistes à partir de septembre 1939.
L'Allemagne devra verser des réparations pour tout dommage causé à des civils alliés et à leurs propriétés. La responsabilité du déclenchement de la guerre incombera uniquement à l'Allemagne. Ce ne sont que certaines exigences du traité de Versailles. Impossible, vous dites. Ça nous brisera. Mais ne voyez-vous pas que, justement, ils veulent nous briser? Et quand je dis « ils », je parle des Rouges!
Le nazisme est un discours sur le passé, une culture narrative, assez culture. Il est donc un discours de réparation de 1917-1919. Réparation qui passe d'abord par une politique révisionniste et ensuite par la mise en place de campagnes qui sont censées s'attaquer à l'ensemble des conséquences de l'issue de la Première Guerre mondiale. Et donc, l'attaque de la Pologne fait sens en ce qu'elle signifie récupérer les territoires perdus en 1918, annihiler un État qui est né de la défaite. On s'en aperçoit en voyant quel type d'agression contre les civils se met en place, hein. Les rhétoriques que les nazis mettent en place et qui mettent en place dans ces groupes de sécurité que sont les Einsatzgruppen sont des rhétoriques qui sont toutes droites issues des années 1914-1920. Donc, on a ici, quand on regarde chacun de ces conflits, toujours cette dimension réparatrice et vindicatoire qui est présente. Hein. L'invasion de la France, eh ben, c'est réussir là où le plan Stephen a échoué. Les commandos SS de prédation d'archives ne cherchent au fond qu'un seul document, et c'est le traité de Versailles. Et les Allemands vont obliger le gouvernement Pétain à signer l'armistice dans le wagon de l'armistice de 1918 à Rotonde. Bref, on a à peine besoin de montrer, hein, c'est vraiment quelque chose d'ostentatoire, qu'il y a une dimension de revanche dans tout ça.
C'est à Rotonde, dans la forêt de Compiègne, à moins de 100 km au nord-est de Paris, que l'Allemagne avait signé l'armistice et sa défaite en 1918.
La dernière campagne qui fait l'objet comme ça d'une dimension vindicatoire, c'est celle en Yougoslavie d'avril 1941. Et effectivement, la campagne suivante est une campagne qui est décrite et argumentée d'une autre manière. Il ne s'agit plus de revanche de 1919-1920. Il s'agit désormais de la guerre existentielle, celle dans laquelle doit se décider à la fois l'acquisition du Lebensraum et la confrontation dernière, existentielle et fatidique à l'ennemi fondamental et absolu de la germanité, c'est-à-dire la judaïté dans sa déclinaison judéo-bolchevique. Cela dit, l'outil qui doit être utilisé par la Wehrmacht pour faire plier les soviétiques est exactement cet outil qui a été employé dans les trois années précédentes, c'est-à-dire les Allemands prévoient une grande offensive tous azimuts en trois Heeresgruppe, c'est-à-dire des groupes d'armées, l'un voulant investir Leningrad, les Zavalt et Leningrad, le second étant chargé de conquérir la Biélorussie, la Russie centrale et Moscou, et le troisième et dernier devant conquérir l'Ukraine et aller jusqu'au Caucase. Et donc on a ici un dernier blitzkrieg qui se met en place. Pourquoi est-ce que c'est le dernier? Ben tout simplement parce que la profondeur stratégique de l'attaque épuise en fait le modèle de la guerre éclair. Les troupes soviétiques finissent par rétablir des lignes en décembre et c'est la fin de cet espoir d'une guerre courte, d'une guerre sans mobilisation, et c'est ici que se met en place la vraie grande crise stratégique du Troisième Reich.
Peut-on dire pour autant que les premières années du nazisme au pouvoir préparent et l'État et la société à mener cette guerre? Nicolas Patin.
Instinctivement, la réponse est évidemment oui. Dans la mesure où le nazisme est une eschatologie, une promesse, et que cette promesse est une promesse de guerre. Une promesse de guerre pour venger 14-18, une promesse de retour de la dignité dans les relations internationales. Hitler, on a l'impression qu'il prend le traité de Versailles et qu'il le raye article par article. Remilitarisation de la Rhénanie, plébiscite de la Sarre, fusion Anschluss avec l'Autriche. On a vraiment l'impression qu'il a pris les clauses territoriales du traité et puis qu'il les barre une par une. Donc évidemment, le nazisme est une course à la guerre. Et pour ça, il faut préparer. On pense notamment à la jeunesse, les jeunesses hitlériennes, les Hitlerjugend. Elles sont préparées en permanence dans le discours à la guerre à venir, au sacrifice de la jeunesse pour l'Allemagne éternelle. Mais dès qu'on a dit ça et qu'on a dit oui, le Troisième Reich prépare sa population à la guerre, ils étaient préparés, mais pas du tout à la guerre qui va être menée. Et on peut se le dire, une bonne partie des Allemands sont, et ça on le sait par les enquêtes d'opinion et par la surveillance de l'opinion par la SS, les Allemands sont toujours prêts à applaudir une fois que Hitler a remilitarisé la Rhénanie ou annexé l'Autriche. Ils sont tout prêts à applaudir même quand la guerre devient mondiale avec la Pologne, mais ils ne veulent pas d'un retour de 14-18, ils ne veulent pas d'un retour à la guerre. Donc on est dans cette ambiguïté que oui, le Troisième Reich prépare à la guerre, mais que la population en elle-même, elle veut bien d'une guerre victorieuse, elle veut bien d'une guerre courte, mais elle veut absolument pas de la guerre telle qu'elle va être, surtout quand, après avoir conquis la moitié de l'Europe, les destructions et les massacres que l'armée allemande fait subir à l'ensemble de l'Europe, à l'Est comme à l'Ouest, ces destructions vont revenir vers le sol allemand dans la figure du bombardement qui commence dès 40, mais qui s'intensifie à partir de 43. Donc on est dans cette contradiction, la guerre est l'horizon du nazisme, et en même temps, quand on redescend et qu'on est rigoureux du point de vue de l'opinion allemande, bah, l'opinion allemande, elle a vécu 14-18 et elle n'a pas envie d'y retourner.
Une des questions qui hante aussi l'histoire du nazisme, les chercheurs et les chercheuses qui s'y consacrent encore aujourd'hui, c'est bien sûr l'extermination des Juifs d'Europe, son organisation et la décision qui lance cette entreprise de destruction systématique. Christian Ingrao.
La solution finale de la question juive est un terme qui est utilisé par les nazis bien avant, 1938-1940. En 1940, en juillet, Göring en a chargé Reinhard Heydrich. La seule chose qui change, c'est que entre l'été 1940 et l'hiver 1941, le contenu a changé et il est devenu, il a une dimension homicide, meurtrière, qui est de plus en plus importante. Et à partir de décembre 1941, ce qui a changé, c'est une décision de principe d'anéantissement de l'ensemble des communautés juives d'Europe. On est passé d'un imaginaire qui, au départ, était un imaginaire de l'expulsion à un imaginaire meurtrier indirect qui consistait à déporter tous les juifs à Madagascar et à ne plus en occuper. On était dans le laisser mourir. Ensuite, quelque part en mars 1941, avec les plans d'invasion du RSS, décision est prise que des dizaines de millions de personnes doivent mourir de faim et les juifs soviétiques sont concernés en premier lieu parce qu'il s'agit de populations urbaines et que les villes sont condamnées à mourir d'inanition. Et quelque part, entre l'été 1941 où est décidée en gros l'extermination des juifs soviétiques et décembre 1941 où est prise cette décision de principe d'extermination des juifs européens, eh bien on est passé du faire mourir au tuer.
Nicolas Patin.
On a une guerre quasi traditionnelle entre 39 et 41, qui est une guerre qui est sainte et qui naît dans la remise en cause de l'ordre international des années 20 et des années 30, de l'entre-deux-guerres. Et puis, avec l'opération Barbarossa en 1941, l'attaque contre l'allié de la veille, l'Union soviétique, on rentre dans une guerre à nul autre pareil, qui est pensée dès le départ comme une guerre raciale contre l'ennemi slave, et évidemment, en termes nazis, contre les judéo-bolcheviques. Donc, en gros, on a en même temps une guerre traditionnelle, puis un saut dans l'inconnu et dans cette guerre extrêmement radicale. Cette guerre, elle a été voulue dès le départ, pas telle qu'elle s'est menée, en tout cas pour 39, mais les nazis y sont arrivés. Je veux dire, il y avait cette course vers le conflit. Et au sein de tout ça, se pose la question de la Shoah, de la destruction des Juifs d'Europe, des 6 millions de Juifs qui ont été tués au cours de la guerre. Et donc, du lien causal qu'entretiennent cette guerre et le génocide. Dans la représentation des gens qui nous écoutent, et c'est logique, quand on lit Hitler dans les années 20 et quand on regarde l'idéologie nazie des années 20, il est absolument évident, il paraît évident, que l'antisémitisme étant le cœur de l'idéologie nazie, la Shoah soit en fait écrite dès le départ, qui est un plan prédéterminé d'extermination des Juifs. Or, et là où ça devient difficile, c'est que c'est des dizaines et des dizaines d'années de recherche et des dizaines de livres. Ce que la recherche a prouvé ces dernières années, c'est qu'évidemment, l'antisémitisme est au cœur de la pensée national-socialiste, mais que le génocide, l'extermination telle qu'elle s'est faite, est inventée au fur et à mesure du déroulement de la guerre et en fonction des aléas de la guerre. Donc vous voyez, ça en fait pas quelque chose de moins grave, mais en tout cas, on ne peut pas parler d'intentionnalisme, c'est comme ça qu'on appelait l'école historique. On peut pas écrire, si on est sérieux, que Auschwitz était en germe dès les années 20. Il n'y a pas de pensée de l'extermination totale, quand bien même, et c'est là que ça devient difficile, quand bien même le vocabulaire nazi dès les années 20 est extrêmement radical. Le terme, c'est souvent vernichten, réduire à néant. On peut faire, en fait, si on veut être très pédagogique et peut-être trop général, de 1933 à 1941, la solution, et là je parle malheureusement avec les termes nazis, la solution finale, la solution au problème juif est une solution territoriale. Les nazis ne pensent pas à détruire, à assassiner, à exterminer les juifs, ils pensent à les déplacer. Alors d'abord à les faire partir, ça c'est les politiques de persécution entre 33 et 39, mais en tout cas la politique de 33 à 39, c'est tellement persécuter les juifs allemands qu'ils partent d'eux-mêmes vers la Palestine mandataire, vers les États-Unis, vers la France, vers la République tchèque. Et cette solution territoriale, si on veut vraiment être dans la pédagogie, cette idée d'abord de faire partir, puis de déporter les Juifs, elle va s'arrêter. Pourquoi ? Parce que dans l'invasion de l'Union soviétique, les unités des Einsatzgruppen, de tuerie mobile, vont commencer à fusiller des hommes en âge de se battre. Et en l'espace de quelques jours, si ce n'est quelques semaines, juillet-août 41, le crime contre l'humanité, si on veut le dire avec des termes actuels, verse dans le génocide, puisque ces hommes, voyant qu'ils ont massacré des populations d'hommes entières, tuent les femmes et les enfants aussi. Et là, on voit se mettre en place la vision du monde nazi, puisque dans la tête de ces hommes-là, qui sont membres de la SS, s'ils tuent les hommes juifs, leurs femmes et leurs enfants vont se venger sur les Allemands pour des siècles et des siècles. On voit cette espèce de gigantomachie. Hannah Arendt disait souvent, les nazis sont comme les coloniaux, ils pensent en siècles et sentent en continents. Et dans ces premiers massacres de l'opération Barbarossa, la logique génocidaire se met en place. C'est à ce moment-là que la solution finale, d'abord sur le terrain, glisse, non plus dans une déportation, mais bien dans un assassinat sur place. Et cette solution-là, une fois qu'elle est appliquée de manière terrible au mois d'août-septembre, on pense évidemment au massacre de Babi Yar à côté de Kiev le 29-30 septembre 41, une fois que la solution finale devient l'assassinat, cette solution-là revient vers l'Europe de l'Ouest, d'abord en Pologne, avec l'extermination de tous les juifs polonais dans les centres de mise à mort de l'opération Reinhardt, puis des juifs européens au sens large, français, italiens, belges, etc., qui sont déportés à Auschwitz. Donc voilà, c'est difficile de répondre. On nous pose une question en fait contrefactuelle de dire s'il n'y avait pas eu la guerre, est-ce qu'il y aurait eu la Shoah ? Et sur un sujet comme celui-là, on ne peut pas répondre. C'est-à-dire que les deux événements sont tellement liés et le sujet est tellement grave qu'on doit se permettre de ne pas répondre. Je ne peux pas répondre. Pour moi, la destruction des Juifs d'Europe est intimement liée au déroulement de la Seconde Guerre mondiale.
La Shoah, l'extermination des Juifs d'Europe, fait 5 à 6 millions de victimes entre 1941 et 1945. Nicolas Patin.
Cette question, la question de la décision, du moment de la décision par Hitler de l'extermination des Juifs d'Europe, elle a animé des dizaines, des centaines de débats, des dizaines de livres pendant des années. On peut dire en gros début des années 90 jusqu'à 2010. Et c'est une historiographie très précise qu'on appelle celle du decision-making process, du processus de décision. Il y a eu pendant un certain nombre d'années l'émergence de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942 comme un peu réponse à tout ça. Wannsee, il y a eu assez récemment un film qui s'appelle La Conférence de Matti Gaeschoneck. Wannsee, ce serait le moment, c'est la réponse. Au risque de décevoir, et en étant quand même assez précis aujourd'hui sur l'historiographie, je pense que cette question, c'est pas qu'elle n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'en fait, on attend une décision centralisée d'Hitler qui expliquerait tout. Mais au moment, dans les débats les plus techniques, au moment où Hitler aurait décidé la destruction des Juifs d'Europe. Donc le débat a toujours oscillé en fait entre septembre-octobre 41, ce qui ferait du génocide un génocide dans l'euphorie des victoires militaires contre l'Union soviétique, et le mois de décembre 41, où là, avec Pearl Harbor et l'entrée des États-Unis dans la guerre, le génocide ne se décide plus du tout dans la même temporalité, dans la même émotion, il se décide dans la peur d'une guerre sur deux fronts, d'une guerre contre l'Union soviétique et les États-Unis. Le débat était bordé comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, avec l'ouverture des archives à l'Est, depuis la chute du mur de Berlin et du communisme, avec les centaines de monographies, de livres qu'on a sur ce qui s'est passé dans les pays baltes, en Ukraine, etc., on voit bien que, en réalité, dès juillet 41, il y a des centaines de milliers de morts dans les fosses exterminées par les Einsatzgruppen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un processus qui s'étale dans le temps et la décision qu'on chercherait, elle est plurielle. Heinrich Himmler, début août 41, dit vous prenez les femmes et les enfants et vous les faites disparaître dans les marais. C'est déjà un ordre de génocide. Donc en fait, ce qu'on attend, c'est la décision du grand homme, Hitler, de l'homme qui a le pouvoir, qui aurait étendu la politique de destruction déjà appliquée aux Juifs soviétiques à l'ensemble de l'Europe. Moi, je pense que cette question, on peut continuer à se la poser. Moi, j'ai évidemment, comme tous les chercheurs et comme le grand public, on espère créer de la connaissance et trouver un peu les sources qui nous permettraient de définir ce jour-là et cette décision-là. Mais en réalité, quand on voit la complexité du processus, de la manière dont il s'étale, de juillet 41, voire juin 41, jusqu'à la fin de la guerre, on a une multiplicité d'acteurs à la tête de l'État national-socialiste et aussi sur le terrain, qui fait que le génocide, en fait, commence avant cette décision-là.
Malgré le racisme d'État du Troisième Reich et son projet de purification de la nation, au cours de la guerre, on compte bientôt 7,6 millions d'étrangers sur le sol allemand. Christian Ingrao, historien.
On a d'un côté le projet, et puis de l'autre côté, on a son agencement, la façon dont ça se met en place. Et le Troisième Reich étant au fond la plus grande entreprise de réduction en esclavage d'un continent tout entier. On peut, je pense, le résumer ainsi. Mais ceci a pour conséquence que le calcul, il est très vite fait. Les entreprises les plus productives sont les entreprises allemandes. Et donc, au lieu de passer des commandes dans une Europe qui est bien incapable de les honorer, eh bien, il faut drainer la population européenne dans d'immenses usines pour mettre en place cette forme de travail qui est très spécifique et qui est non rémunéré. Là où le Troisième Reich se voyait comme une espèce de grande cathédrale nordique peuplée de personnes aux yeux bleus et aux cheveux blonds, la cathédrale est devenue une tour de Babel. On parle plus russe à Berlin qu'allemand. À partir de décembre 1941, vous vous en rappelez, il y a une crise qui se met en place suite à la défaite du Blitzkrieg et cette crise, elle est résolue en mettant en place de grandes politiques de rationalisation et de mobilisation des ressources à la fois matérielles, humaines et militaires de l'ensemble de l'Europe. Donc les ressources matérielles, eh bien c'est le début d'une immense campagne de pillage des ressources européennes. Les ressources humaines, eh bien est nommé à ce moment-là un personnage qui s'appelle Fritz Saukel, qui est Gauleiter de Franconie, donc Gauleiter de Thuringe, et qui est connu pour son expertise en termes de main-d'œuvre industrielle et qui va mettre en place de grandes politiques de drainage au plan du continent entier. Alors, ça se passe pas partout de la même façon. En France, se met en place d'abord la relève et puis le service du travail obligatoire. Mais en Biélorussie, eh bien, là où les Allemands avaient mis en place des politiques de lutte contre les partisans qui étaient basées sur le massacre et l'extinction des sociétés rurales dans les années 1941 et premier semestre de 42, à partir de l'été 1942, les populations de ces sociétés rurales sont divisées en deux groupes. Il y a les gens qui sont aptes à travailler, qui sont envoyés comme Ostarbeiter, c'est-à-dire des travailleurs de l'Est dans la métropole allemande, dans le Reich, et puis les autres qui sont impitoyablement massacrés. Donc, c'est comme ça concrètement que les choses se mettent en place, c'est que petit à petit, les travailleurs étrangers apparaissent partout, comme par ruissellement dans la société allemande. Les paysans allemands commencent à avoir un, puis deux ouvriers agricoles, puis plusieurs quand il s'agit de grands domaines. Les familles bourgeoises vont de plus en plus pouvoir avoir recours à des femmes de ménage ou des servantes biélorusses, polonaises, etc., etc. Tandis que le complexe militaro-industriel nazi s'appuie de plus en plus sur des contingents de travailleurs forcés.
Nicolas Patin.
On a l'impression que le 8 mai 45, le nazisme est défait pour toujours. Et la réponse est donc très simple. Comment le nazisme est-il défait ? Il est défait par les armes. Il est défait par la puissance économique des États-Unis et de l'Union soviétique. Il faut rappeler que sur les 56 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale en Europe, il y en a 26 millions qui sont des soldats soviétiques. Donc on a vraiment un pays, l'Allemagne, qui, dès le début de la guerre, sait que même si elle met les moyens économiques et militaires, elle se confronte à des géants que sont les deux puissances qui vont émerger de la guerre. Alors quand je pose la question aux gens qui sont vraiment spécialistes d'histoire militaire, à savoir quand est-ce que le nazisme, le Troisième Reich a perdu la guerre, par exemple j'ai posé cette question à Olivier Viorca, il m'a dit il a perdu dès 1941, dès la déclaration de la guerre à l'Union soviétique, qui est une puissance militaire, économique et énergétique bien supérieure. Ils avaient déjà perdu en substance en d'une certaine manière. Mais en tout cas, voilà, la réponse simple, c'est le nazisme a été défait par les armes, par le courage non seulement des soldats soviétiques, des soldats américains, des résistants français, polonais, serbes, de toute cette Europe-là qui s'est élevée contre la barbarie nazie, du point de vue des gouvernements, des états-majors, mais aussi des résistants et aussi des individus qui, à certains moments, ont dit « je prends les armes pour mon avenir et pour celle de mes prochains ». Mais ensuite, si on se dit d'un coup d'un seul, le nazisme a disparu le 8 mai 45, bah là, évidemment, la fin de l'ouvrage et la conclusion notamment est beaucoup plus sombre parce que la dénazification voulue par les alliés, certes, elle s'exerce, on a 140 000 procès, mais dans un pays où 8 millions de personnes avaient leur carte au parti nazi. Et puis, vous le savez peut-être, c'est valable pour toute l'Europe, dans une Europe qui est à reconstruire, dans une Europe aussi qui, dès 45, pour certaines de ses élites, a peur du communisme, il vaut mieux garder des avocats, des médecins et des ingénieurs, qui sont des professions extrêmement nazifiées ou collaborationnistes, pour reconstruire. Donc en réalité, le grand moment de purge, de justice, qui est un peu montré symboliquement à Nuremberg, est un faux semblant, ou en tout cas largement un faux semblant, dans la mesure où tous les anciens nazis vont retrouver, non seulement trouver du travail, mais se réinsérer dans la société allemande et dans toutes les sociétés européennes. On pense notamment, l'exemple, j'ai l'impression qu'il y a un oubli par rapport à tout ça, mais on oublie qu'en 1968, Beate Klarsfeld gifle le chancelier allemand parce que c'est un ancien nazi. Et voilà, la conclusion, elle montre que, alors, le nazisme a été vaincu, en tant que phénomène historique. Les idées, malheureusement, de l'extrême droite, si elles avaient été vaincues jusqu'à leur terme, on serait les premiers étonnés vu le contexte actuel. Et surtout, les composantes de la pensée nazie, ce darwinisme social, ce racisme, cet ultranationalisme, ils sont encore très présents. Donc, en gros, s'il y a un message d'espoir, c'est pas la situation telle qu'elle est aujourd'hui, même s'il y a des choses qui ont été faites, c'est l'avenir qu'on peut promettre en disant qu'il faut continuer inlassablement à lutter contre les idées qui ont été à l'origine du nazisme.
Merci à Nicolas Patin, Christian Ingrao et Johan Chapoutot. Histoire vivante, c'est Anaïs Quien avec Samuel Morier-Genoux à la réalisation. Et pour toujours plus d'histoires, n'oubliez pas notre rubrique Sœur dans les pages et sur le site de La Liberté.